bonjour à tous les auditeurs de Radio Aligre FM. Bonjour, bonjour Isabelle.
Bonjour Nathalie.
Bonjour à tous, merci d'être là pour cette nouvelle émission en direct. Nous sommes bien le samedi 17 avril et tout va bien, il est 16h, on a commencé pile à l'heure. Et on est ravis de recevoir, voilà, Christiane Voller, philosophe, et Philippe Bazin, photographe.
Bonjour.
Bonjour à vous, merci d'être venu. On est ravis parce que ce sont des amis et en plus on adore leurs livres. Hein, on le rappelle, Archipel des Solidarités.
Archipel des Solidarités, Nathalie, voilà. Grèce 2017-2020 avec de magnifiques photographies.
Ouais, de Philippe et des textes, des entretiens magnifiques. On va vous en parler.
Des témoignages.
Voilà, c'est absolument magnifique. On est ravis de vous avoir. Je fais juste une petite annonce au départ pour dire à nos auditeurs absolument d'aller voir le podcast de l'émission qui manquait, que nous avions fait avec Moha et Laurent Bazin pour l'association Le Paria. Donc nos auditeurs se souviennent que le 20 mars, on avait fait une émission qui s'appelle « Se défendre, s'émanciper oui. » 1, parce qu'il va y avoir un 2 bientôt. Oui. Ça y est, le podcast est mis grâce à notre équipe de choc, de techniciens qui sont avec nous et qui ont fait tout ce qu'ils ont pu pour retrouver le podcast. Et ils l'ont retrouvé, ouais, ça y est, je l'ai mis en ligne. Donc j'invite les auditeurs à aller écouter cette émission magnifique. Je rappelle que Le Paria est une association dont Philippe Bazin et Christiane Voller font partie, ainsi que moi-même, et Isabelle nous accompagne de ses idées aussi. Voilà, c'est une association qui se bat contre les violences policières et la manière dont on s'occupe des étrangers en France et plus généralement tous les parias de ce pays. Pays qui normalement est le pays de l'égalité, paraît-il, et des droits de l'homme. Hein, bon, alors voilà, allez voir, mesdames et messieurs, allez écouter cette émission avec le témoignage de Moha, voilà, et de Laurent Bazin, pour qui sont cofondateurs du Paria. Voilà, eh bien, c'est moi qui commence, Isabelle, c'est ça. Je fais une présentation de nos invités, parce que nos auditeurs ont droit de connaître nos invités. Hein, voilà, nous sommes, alors, honneur aux femmes. Hein, on va dire ça.
On va commencer par Christiane.
Voilà. Alors, Christiane Voller est philosophe, voilà, chercheur associé au Centre de recherche sur le travail et le développement du CNAM, membre du programme Non-lieu de l'exil, Institut Convergence, Migration, EHESS, membre de la rédaction de la revue Chimère, très bonne revue, collaboratrice régulière de la revue Ligne.
Oui.
Et puis une philosophie aux multiples champs de recherche, hein, oui. Politique, esthétique, médecine, exactement. Et puis philosophie de terrain, qui est le concept qui te travaille et qui vous travaille également dans vos œuvres communes. Je cite quelques ouvrages pour que les auditeurs aillent se précipiter en ces temps d'enfermement dans les librairies.
Oui, oui, ouvrage très important.
Voilà, de Christiane Voller. Humanitaire, le cœur de la guerre. L'insulaire, les éditions insulaires, Paris 2007. Le milieu de nulle part, avec Philippe Bazin, édition Créafis 2012. Pour une philosophie de terrain, édition Créafis 2017. Et puis donc, avec Philippe, un archipel des solidarités, Grèce 2017-2020, ce sont les éditions locaux, voilà, j'ai cité. Je vous invite à taper le nom Christiane Voller sur Internet et vous allez immédiatement, assez rapidement tomber sur son site pour en savoir plus, lire des articles, etc., vous tenir au courant de ce qu'elle a fait. Et puis Philippe Bazin, voilà, qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Petite présentation également, donc photographe qui a étudié à l'ENSP de Arles. Voilà, 86-89, c'est ça, tu me corriges Philippe si je fais des bêtises. Hein. Depuis le début des années 80, Philippe Bazin développe un travail concernant les relations que nous entretenons avec les différents phénomènes institutionnels, on sera amené à en reparler ici dans cet ouvrage, qui organise l'existence de chacun. Je cite quelques ouvrages, Face, 1990, Adolescent, 1995, Les bourgeois de Calais, 1995 également, Né, 1999, un ouvrage sur les visages, La radicalisation du monde, 2009. Depuis le début 2000, des années 2000, Philippe Bazin fait un travail artistique qui se développe sur les relations entre esthétique et politique. On cite John Brown's Body en 2007, en 2016, pardon, Reconstruction en 2014, Le milieu de nulle part en 2012. Et puis un ouvrage fondamental, mais on va en reparler aussi, de la perspective photographique de Philippe, un ouvrage qui s'appelle Pour une photographie documentaire critique en 2017, qui est donc l'ouvrage qui marque une série d'articles, qui marque les positions par une série d'articles de Philippe Bazin sur la photographie. Et puis on cite encore Les Coupes en 2017, Vie des Calais en 2019. Voilà,
avec Christiane.
Avec Christiane, voilà. Et puis donc en 2020, Un archipel des solidarités, qu'on cite. Et puis Encuentro Chiapas, 1996, hein, c'est ça?
Là, j'ai écrit pour un autre photographe, Bruno Serralong.
Voilà, d'accord. Et puis en ce moment, vous co-dirigez, Christiane et toi, un séminaire à l'EHESS qui s'appelle Images et Recherches Critiques.
C'est ça, avec Chora Makaremi.
Avec Chora Makaremi.
Qui est anthropologue au CNRS. Donc philosophe, anthropologue et photographe.
Super. Bon, et ben voilà, et j'invite là aussi les auditeurs à taper philippebazin.fr sur Google. Ça arrive tout de suite et là, vous avez des heures et des heures de découverte de cette œuvre et de cette œuvre photographique et de cette pensée. Alors, une première question. On est dans une discussion, on partage notre amour de ce livre et la nécessité de le lire. Alors, pour un petit peu concrétiser auprès de nos auditeurs la démarche générale de votre travail ici, dans un archipel des solidarités, comment est né cet ouvrage? Quel en a été le point de départ? Et pourquoi la Grèce? Alors, il y a peut-être au sein de cet ouvrage les deux concepts qui sont dans le titre même, la question de l'archipel et la question de la solidarité au centre de votre démarche.
Oui,
Christiane.
Alors oui, par rapport à ça, alors tu poses plusieurs questions en même temps,
toujours.
C'est-à-dire comment on en est venu là. Là d'ailleurs, Philippe pourrait répondre aussi bien que moi, comme sur tout le reste. On en est venu là effectivement parce qu'on avait décidé d'aller en Grèce pour interroger la manière dont en particulier les Grecs avaient fait face à ce que je n'appelle pas une crise économique, mais la violence économique, en sollicitant et en suscitant finalement des initiatives qui étaient des initiatives solidaires et alternatives, en particulier sur le plan de la santé.
Et c'est un travail que vous avez développé, il faut repréciser, de juillet 2017 à janvier 2020.
Oui.
Donc il s'est étalé sur trois ans.
Absolument. Mais ça n'était pas prévu au départ.
Voilà.
Au départ, on était seulement parti pour un mois et pour travailler autour de ces dispensaires de santé solidaire. Et en fait, tout à coup, et pas tout à coup, d'ailleurs progressivement, plusieurs mondes se sont ouverts devant nous. Donc d'une part, effectivement, ce monde des solidarités et des propositions alternatives pour affronter la violence économique, d'une part. Puis d'autre part, la question des migrations. Et enfin, à travers la question des migrations, la question finalement de l'histoire, et donc la question d'une remise, d'une recontextualisation de ces solidarités en Grèce dans une dimension historique, en particulier la dimension de la lutte contre le fascisme en Grèce. Voilà, donc du coup, ça s'est développé de cette manière-là, et ça s'est développé dans la perspective générale de notre travail de collaboration, qui est un travail en fait autour des processus de globalisation et de la manière de s'y affronter, à la fois en termes de revendications, en termes de protestations, en termes de revendications en particulier sur le droit au logement, sur le droit à la santé, et puis en termes finalement de solidarité entre les sédentaires et les migrants. Voilà, c'est comme ça, disons, que ça s'est développé plus généralement. Philippe, peut-être tu as...
Oui, non, mais je crois que tu as bien résumé le cadre global de notre travail. C'est vrai que pour nous, qui avions l'habitude de faire des interventions sur le terrain beaucoup plus courtes, là, ça a été un déploiement assez exceptionnel pendant 3 ans, et c'était bien parce que ça nous a permis à l'un comme à l'autre de remettre en question les présupposés, les données du travail qu'on faisait ensemble jusqu'ici et qui dure depuis la fin des années 90. Donc Voilà, ça a été un moment assez refondateur, quelque part, juste après la sortie de nos deux livres théoriques sur nos démarches respectives.
Alors, est-ce qu'on peut revenir sur ces concepts, pourrait-on dire, fondateurs de votre travail ici, la question de la solidarité et ce que vous entendez par archipel? Parce que là, ça figure dès le départ de votre ouvrage. Avec peut-être une double question, comment les photographies de Philippe viennent réfléchir cette question de l'archipel et des solidarités?
Je démarre. Donc, sur la question de l'archipel, en fait, ce qui nous a beaucoup saisi, c'est la manière dont des initiatives qui semblent dissociées les unes des autres sont en réalité reliées les unes aux autres, au sein même de la Grèce, mais d'autre part aussi au niveau international. Et la manière dont ces initiatives résonnent avec d'autres initiatives dont nous avons eu connaissance ou sur lesquelles nous avions travaillé lorsque nous avons travaillé en Turquie, en Égypte, en Bulgarie, au Chili, en Pologne, entre 2008 et 2017, le moment où nous sommes partis en Grèce, y compris en France, puisqu'on a travaillé dans les camps de réfugiés du nord de la France, puis actuellement dans les quartiers populaires. Donc, du coup, on s'est rendu compte que toutes ces initiatives qui paraissent dissociées ont en réalité un socle commun, et ça a résonné très fort pour nous autour de la notion d'archipel, et ce socle commun étant en fait précisément des formes d'action au niveau international contre des processus de globalisation. Et mettre en confrontation la question de l'international et la question du global, c'est-à-dire finalement les opposer, c'est à mon avis une très forte manière d'affronter justement ces processus du néolibéralisme qui sont tout à fait délétères. Donc du coup, voilà comment est née cette idée de l'archipel, et ça a renvoyé évidemment à ce très célèbre bouquin de Solzhenitsyn, l'archipel du Goulag, qui est paru en 73, et qui montrait finalement comment toutes ces violences apparemment disséminées sur le territoire de l'URSS de l'époque constituaient en réalité un archipel de la violence politique. Un archipel, c'est cela effectivement sur le plan géographique, et Foucault l'avait mentionné dans un entretien avec la revue Hérodote, c'est ce qui fait qu'en réalité, le socle commun est quelque chose qui n'apparaît pas immédiatement, mais qui en fait fonde profondément les modes d'activité, les modes de relation ou les modes de violence politique. Et donc on a voulu inverser l'idée de l'archipel du Goulag en une idée au contraire de l'archipel des solidarités. Et sur la solidarité, solidaire en voyant au solide, c'est-à-dire aussi à cette idée du socle, c'était aussi l'idée d'opposer la solidarité à l'assistanat. C'est-à-dire de montrer que la solidarité, c'est la conviction d'intérêts communs à défendre contre, effectivement, des formes de domination politique qui visent à faire disparaître le commun. Donc ça, c'était pour moi très important, et en particulier en 2009, j'avais coordonné le numéro de la revue Pratique qui s'intitulait « L'humanitaire est-il porteur de solidarité ?» Et précisément, l'interrogation signifiait que dans bien des cas, il ne l'était pas, et que la solidarité signifie tout autre chose, c'est-à-dire précisément la conscience de ses intérêts communs. D'où la manière dont, effectivement, dans le bouquin, je me réfère à Durkheim et à l'idée de solidarité organique qui fait qu'un corps social peut sentir effectivement ce qui lie ces différentes composantes les unes aux autres.
Alors, du coup, comment la photographie, qui est éminemment présente dans l'ouvrage, par deux placements qui s'appelle le premier portrait d'entretien, page 89 de l'ouvrage, et deuxième placement, paysage à l'épreuve de l'histoire. Comment la photographie, dans cet ouvrage, vient résonner avec ces idées, ces concepts d'archipel et de solidarité, Philippe? Comment as-tu pensé la place de tes photographies et la photographie dans cet ouvrage?
D'abord, la photographie, pour moi, c'est quelque chose de très empirique. Hein, ce que j'appelle, et je pense bien nommer, photographie documentaire, c'est une attitude heuristique qui consiste à apprendre ce qu'on doit faire du terrain dans lequel on travaille. Donc, je ne suis pas parti avec l'idée que j'allais travailler sur la solidarité ou l'archipel, vous voyez, mais d'ailleurs au passage, cette notion d'archipel au départ, si on l'a utilisée pour la Grèce, c'est parce que les Grecs en parlent
Oui.
tout le temps, et que pour eux, ils ont le sentiment d'être un pays d'îles, un archipel, avant d'être un pays continental, bien que ça soit complètement à l'encontre de la réalité topographique, en termes de surface même de leur territoire. Hein. C'est parce qu'ils, eux, ils nous parlaient sans arrêt de cette idée de d'archipel que, bien sûr, à un moment donné, on s'en est réemparé autrement. Donc voilà, et les choses, ben, pour les portraits d'entretien, c'est très simple. Depuis des années, Christiane fait des entretiens dans des projets qui nous sont communs, et j'avais pris l'habitude de ne pas assister aux entretiens parce que la première fois on a vraiment fait ça ensemble, c'était dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile en Pologne. C'était des Tchétchènes poursuivis par les services secrets russes en général. Et donc ces gens-là, dès qu'ils voient un instrument technologique, un enregistreur, un appareil photo, n'importe quoi, évidemment, ça ferme toutes les écoutilles. Ils veulent plus parler, ils sont inquiets, ils me regardaient de travers. Et donc, en Pologne, j'ai jamais, jamais assisté aux entretiens. Je faisais mes photographies de mon côté. Il n'était pas question que je photographie les gens. Là, en Grèce, pour la première fois, j'ai accompagné Christiane pour son premier entretien. Et ça a été complètement fascinant de voir comment, au fur et à mesure où les gens parlent et où approfondissent leurs pensées, leurs réflexions. Vous savez, dans une conversation, au début, les gens disent ce que tout le monde s'attend à entendre. Mais au bout d'un moment, si ça continue, il se passe autre chose. Et moi, je voyais physiquement se transformer les gens. Et par tout mon travail depuis le début, je suis très sensible à la manière dont le visage travaille et est travaillé. Et j'ai toujours dit, moi, j'ai appelé ça portrait d'entretien parce qu'en fait, c'est pas des portraits, au sens où je ne cherche pas une relation et je l'ai jamais cherché avec les gens, de photographe à modèle. C'est beaucoup plus la manière dont le corps du visage est travaillé par ce qu'il affecte, par les pensées qui sont à l'œuvre dans la tête des gens, etc., etc. Et moi, c'est ça qui m'intéressait énormément. Voilà, c'était cette concentration des gens et cet effort qui se voyait physiquement sur le visage des gens dans la relation d'entretien avec Christiane et la façon dont ça évoluait au fil de l'entretien qui souvent durait 1 heure et demie, 2 heures et jusqu'à 3 heures pour l'un d'entre eux. Voilà donc. Les entretiens, ça s'est fait comme ça. Et puis, j'ai commencé à photographier comme ça, mais j'avais absolument pas prévu de faire ça. Et moi, je suis jamais parti sur un travail de terrain avec l'idée de à quoi allaient ressembler les photos à l'avance.
Oui, c'est à partir du terrain
C'est
que
le
la
terrain.
photo
Voilà.
se
C'est le terrain
fait.
qui nous apprend les choses,
Oui.
qui nous apprend ce qu'on doit faire. En tout cas, pour moi, c'est ça. Et voilà, je pars pas comme un journaliste avec un texte écrit, une esthétique calibrée pour un journal, un financement, on part sans financement non plus, etc. Vous voyez, les choses sont complètement à l'inverse. Et quand on arrive quelque part, des fois j'ai pas envie d'y aller, mais quand j'y suis, voilà, je suis comme une éponge, en tout cas j'essaie de l'être, qui absorbe les choses, qui regarde ce qui se passe. Voilà, j'ai les antennes un peu complètement dehors. Pour les paysages à l'épreuve de l'histoire, ça s'est passé un peu différemment. Moi, j'adore l'histoire. J'aurais dû faire des études d'histoire, mais je crois crois que dans ma famille, ça ne se faisait pas. C'était quasiment un gros mot. Faire autre chose que des maths. Donc, voilà. Je n'ai pas fait d'études d'histoire, mais j'ai toujours gardé un goût très fort pour l'histoire. J'ai beaucoup, beaucoup lu d'histoire. Et là, évidemment, après notre premier séjour en Grèce, où les gens nous renvoyaient, bien sûr, à cette idée de l'archipel, mais à cette idée de l'histoire grecque du XXe siècle, que là non plus, on ne connaissait pas. Donc, je me suis mis à travailler là-dessus. Et puis, en lisant des choses, voilà, on découvre des réalités, comme par exemple des milliers de villages abandonnés en Grèce et qui sont restés abandonnés à cause de la Seconde Guerre mondiale et à cause de la guerre civile qui a suivi. Hein. Déjà, on a découvert qu'il y avait une guerre civile extrêmement meurtrière, aussi longue que la guerre d'Espagne, mais après la Seconde Guerre mondiale. Voilà, et qui était soutenu par les forces occidentales, anglaises et américaines, pour exterminer les forces progressives et sociales de la Grèce. Donc ça a été une espèce de découverte. C'est notre histoire occidentale dont on nous parle jamais, quoi, vous voyez. La création du camp d'extermination de Macronissos en 1946, alors qu'un an avant, on venait triomphalement de libérer les camps de la mort nazis, et on refait exactement la même chose dans une île à 50 km d'Athènes en 46. Donc voilà, ça, tout ça, c'est des endroits où je voulais aller, que je voulais voir. Sur la question des migrations, on est allé à Lesbos et c'est pareil, je voulais aller sur la côte nord de Lesbos où des centaines de milliers de gens ont débarqué. Et moi, j'ai appelé ça les plages du débarquement, hein, parce que je pense qu'il faut complètement inverser la perspective qu'on a sur les migrants. Je pense que quelque part, les migrants, par les interrogations, les questions qu'ils posent à notre société quand ils débarquent, nous libèrent de nos a priori, nous libèrent de nos idées toutes faites, et c'est ce qui s'est passé pour les Grecs. Quand les Grecs ont vu débarquer les Syriens, les Irakiens sur leur plage, notamment dans la crise migratoire de 2015-2016, qu'est-ce qu'ils ont vu ? Ils ont vu ce qu'ils avaient dans les albums de famille de leurs grands-parents ou arrière-grands-parents débarquant après la grande catastrophe de 1922 entre la Grèce et la Turquie, exactement dans les mêmes conditions. Donc vous voyez, en Grèce, on ne pouvait pas regarder l'actualité contemporaine et la comprendre sans regarder ce qui s'était passé dans le passé. Et donc c'est comme ça aussi que, d'une manière, à la manière d'un archipel aussi, on a été prendre sur le territoire grec, en photographie, un certain nombre de lieux qui nous paraissaient emblématiques. Et là, c'est plutôt moi qui ai construit ce parcours à partir de mes lectures. Voilà, il y a quelques historiens sur la Grèce du XXe siècle qui sont formidables. Il y a évidemment Olivier Delorme qui a écrit une somme impressionnante sur l'histoire de la Grèce et des Balkans, qui est un livre formidable. Et puis sur la période précise de la Seconde Guerre mondiale, l'historien anglais Mark Mazower a fait un livre vraiment que je recommande à tout le monde, qui est d'une intelligence et d'une précision, et où on voit un historien qui va travailler sur le terrain, qui interroge les derniers survivants dans les années 2000, et ça a été une source très très précieuse. Voilà, et puis il y a quelques autres ouvrages. Bien sûr, je ne suis pas historien, je n'ai pas lu tous les ouvrages d'histoire sur la Grèce, mais quelques autres. Comment ?
Christina.
Oui, le livre de Christina Alexopoulos, par exemple, qui a beaucoup travaillé sur la mémoire dans la population grecque contemporaine de ces deux catastrophes, de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre civile. Ou bien le livre de Joëlle Dallègre, qui, elle, en plus, m'a aidé, avec qui j'ai correspondu, et qui m'a aidé à retrouver des sites où des villages avaient été abandonnés, rasés ou pas d'ailleurs. Et donc c'est sur deux de ces sites que j'ai pu faire des photographies qui constituent des parties de ce chapitre sur les paysages à l'épreuve de l'histoire. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse dans la question du paysage, évidemment, c'est pas du tout ce qui nous prend beaucoup à notre époque, c'est-à-dire la dimension romantique, émotionnelle du paysage, mais beaucoup plus son rapport au politique.
Et à l'histoire, donc.
Et à l'histoire, bien sûr, mais bien sûr, l'histoire, c'est du politique. Voilà, et moi, j'avais été très frappé par la fresque du bon et du mauvais gouvernement de Lorenzetti à Sienne. Ça a été un peu un déclic où je me suis dit, mais voilà, il faut se débarrasser de tout l'encombrement du romantisme et puis retourner à un paysage politique comme Lorenzetti a pu le peindre dans cette fresque.
Alors merci, parce qu'on a, avec Philippe, tu viens de me faire penser à effectivement une question à laquelle j'avais réfléchi avant de venir, mais c'est la question de la profondeur historique en fait qui surgit du travail de philosophie de terrain de Christiane et de ton travail photographique, et une profondeur historique qui vous a happé, qui vous est apparue, mais on a l'impression aussi qui ressurgit, que vous avez fait ressurgir à travers votre travail commun en allant voir ces gens, en les photographiant ou en photographiant des paysages ou en faisant des entretiens avec ces gens-là. Donc, qu'est-ce que c'est, si on pouvait prendre quelques petites minutes, qu'est-ce que c'est que cette question de la profondeur historique que vous retrouvez chacun dans vos mouvements respectifs de travail ? Dans ce livre, Un archipel des solidarités.
Alors ça, c'est venu justement à partir des entretiens.
Oui.
C'est-à-dire, c'est en interrogeant des gens, par exemple, en interrogeant un médecin qui était un homme extrêmement engagé dans la gauche radicale et dont toute la famille était au contraire une famille de droite, très institutionnelle et très grande bourgeoisie, c'est-à-dire à l'encontre de toutes ces options. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais comment se fait-il que tu aies pris cette option-là complètement à l'encontre de ta famille ? Il m'a répondu, mais la vraie personne qui m'a éduquée, c'est pas ma mère, c'est la bonne. Et justement, parce que j'étais d'une famille bourgeoise, enfin de la grande bourgeoisie, et donc cette bonne, elle était originaire de l'île d'Icaria, qui est une île sur laquelle, pendant la guerre civile, c'est les militants de la gauche progressiste grecque ont été envoyés par mesure punitive par le pouvoir fasciste de l'époque, et arrivant sur cette île, les habitants, au lieu de les considérer précisément comme des parias, tu employais le terme tout à l'heure, au lieu de les considérer comme des déportés politiques qui devaient effectivement être immédiatement assignés uniquement à la gendarmerie, au contraire, les ont aidés, les ont soutenus. Et ce qui s'est passé, c'est que ces militants déportés, eux-mêmes, étaient issus de milieux très différents de ceux des gens de l'île. Les gens de l'île étaient des paysans, des pêcheurs, des gens qui n'avaient pas été à l'école. Et donc, eh bien, les militants déportés ont créé des structures d'école sur l'île. C'est-à-dire qu'il y a eu et des structures de médecine, certains d'entre eux étaient médecins. Et donc, en fait, il y a eu un véritable échange de solidarité extraordinaire entre les deux, et qui a fait que depuis, les habitants de l'île, qui s'étaient montrés solidaires, ont été eux-mêmes visés par la violence fasciste, et eux-mêmes envoyés dans d'autres camps, etc., etc. Mais donc, il y a eu tout ce mouvement de solidarité. Donc, du coup, en discutant avec ce médecin, tout à coup s'est ouvert d'abord cette profondeur du rapport à la guerre civile, donc comme l'a dit Philippe tout à l'heure, on ignorait tout, et puis d'autre part, l'idée d'aller sur l'île d'Icaria et d'interroger précisément des habitants de cette île sur ce qui s'y était passé. Et c'est là qu'on a commencé en fait le travail historique, qui toutefois avait pris déjà c'était déjà un peu affirmé précédemment, quand on a travaillé autour des migrations, parce que il se trouvait que les gens de Lesbos, les sédentaires, qui accueillaient les migrants sur l'île et qui se sont débrouillés pour leur offrir leur solidarité contre les politiques de leur propre gouvernement, ces gens-là étaient eux-mêmes issus de l'immigration. et étaient eux-mêmes des descendants de gens qui avaient atterri sur l'île. C'est ce qu'on montre effectivement dans le bouquin, en particulier autour de cet épisode qu'on appelle la Grande Catastrophe, où des Grecs ont été chassés de Turquie et obligés de revenir sur le territoire grec où, pour nombre d'entre eux, ils n'avaient jamais vécu. Donc, voilà, à travers ces deux dimensions, celle de la guerre civile, celle des migrations, on a commencé effectivement à aborder cette profondeur historique qui, du coup, permet de recontextualiser. Et je trouve que dans le contemporain, c'est justement très souvent un énorme défaut de toutes les questions qui sont abordées, y compris à propos des migrations, de manquer de contexte historique, de pas voir comment sont ancrés ces mouvements, parce qu'il se trouve qu'un certain nombre des acteurs de la solidarité sont des gens qui se situent dans la filiation de ces politiques antifascistes du milieu du XXe siècle.
C'est vrai qu'après avoir lu Archipel des solidarités de Christiane et de Philippe, m'est venue l'image d'une mosaïque. Et vous parliez de Sienne, je peux parler également d'Emilia Romagne et des grandes mosaïques qui s'y trouvent, où chaque tesson forme un ensemble. Chaque tesson, c'est chaque étincelle des visages que vous rencontrez, des solidarités qui se déploient, des cercles vertueux qu'on y trouve et qui forment dans leur unité un visage de l'humanité, dans sa dignité. Je pense que c'est important aujourd'hui de le redire parce que finalement, nous avons tous en nous cette force possible qui se déploie pour aider les autres et des postures de non face aux injustices. Voilà, plutôt défendre une légitimité relative à cette dignité de l'homme qu'une légalité pour être dans les clous et qui peut apparaître au fond un manque à son humanité comme à celle d'autrui. Donc au fond, la présence au prochain s'exposerait ici au risque du nom d'Antigone à Créon.
Alors, oui, ben d'autant plus qu'existe effectivement un délit de solidarité qui justement oppose le légal au légitime.
Et
donc là, on est vraiment en plein dans ce que tu décris, effectivement. Alors, moi, pour ce qui est de cette opposition entre légal et légitime, en revanche, je me référerais pas à Antigone, à laquelle effectivement on se réfère très souvent hein, pour cette opposition-là, parce que le combat d'Antigone est un combat qui est lié à la question de la piété filiale, à la question de la piété sororale d'ailleurs, du culte rendu aux morts, etc. Mais je me référerai plutôt à la question de la de Sorrow, de ce que Sorrow appelle lorsqu'il parle de la désobéissance civile et lorsqu'il appelle effectivement à une mobilisation collective lorsque la loi est illégitime. Actuellement, on est en plein là-dedans. La loi sécurité globale, on est en plein dans cette question de l'illégitimité de la loi et de la production d'illégitimité au sein du droit constitutionnel. Voilà. Ça, je crois qu'on est vraiment en plein dans cette problématique, effectivement, que tu abordais sur la question du rapport légal-légitime.
Oui, c'est vrai qu'Henri David Thoreau s'était aussi érigé contre le gouvernement des États-Unis par rapport à sa politique au Mexique.
Et esclavagiste. Oui, bien sûr. Je me permets, avant de faire une pause musicale, tu reprendras la parole après, Isabelle, je me permets de lire quand même un extrait de l'ouvrage. On va essayer d'en lire deux ou trois au moins. Alors, nous sommes dans les premières pages d'un archipel des solidarités, page 12. Et ça va être, je prends mon temps. On tentera donc ici d'interroger par le texte et par l'image trois directions de notre recherche qui convergent sur cette question des solidarités. Celle de l'affrontement à des politiques économiques destructrices qui nous conduira à aborder non seulement la question de la santé, mais aussi celle d'une reconstruction des socialités à l'encontre des politiques gestionnaires par les quartiers ou par les espaces alternatifs. celle des politiques migratoires qui conduisent à interroger les rôles respectifs des associations, des organisations non gouvernementales et des organisations intergouvernementales, puis les usages du geste humanitaire et enfin la spécificité de Lesbos, celle du temps long de l'histoire qui voit naître le conflit entre politique solidaire et politique policière, interrogeant la brutalisation du politique sous la figure de l'archipel que constitue la Grèce. On y relie les effets contemporains d'une libération confisquée par les politiques alliées, ouvrant à la guerre civile et un présent qui résiste aux configurations multiples de l'oppression. Donc on est vraiment dans une résistance à ce légal qui se dit légitime, hein, et cet ouvrage fait éminemment ressortir une forme de désobéissance civile chez ces gens qui, n'ayant pas oublié d'où ils viennent, donnent d'eux-mêmes pour accueillir l'autre dans une politique européenne qui ne cesse de se refermer à la différence.
Oui, avec la conviction que l'autre est moins, beaucoup moins autre que ne le sont leurs propres pouvoirs politiques.
Voilà.
C'est-à-dire la conviction d'être de plus en plus étranger à sa propre direction politique, mm-hmm. chacun dans nos pays, et de plus en plus proche de ceux qui fuient ces directions.
Oui. Allez, une petite pause musicale. Nous avons l'immense privilège et bonheur d'écouter Barbara. Mais c'est quel numéro, quel morceau de Barbara ?
C'est la chanson « Si la photo est bonne ».«
Si la photo est bonne ».
Si la photo est bonne, juste en deuxième colonne, y a le voyou du jour, qui a une petite gueule d'amour. Dans la rubrique du vice, y a l'assassin de service, qui n'a pas du tout l'air méchant, qui a plutôt l'œil intéressant. Coupable ou non coupable, s'il doit se mettre à table, que j'aimerais qu'il vienne pour se mettre à la mienne. Si la photo est bonne, il est bien de sa personne, n'a pas plus l'air d'un assassin que le fils de mon voisin. Ce gibier de potence, pas sorti de l'enfance, va faire sa dernière prière pour avoir trop aimé sa mère. Bref, on va pendre un malheureux qui avait le cœur trop généreux. Moi qui suis femme de président, j'en ai pas moins de cœur pour autant. De voir tomber des têtes, à la fin ça m'embête. Et mon mari le président, qui m'aime bien, qui m'aime tant, quand j'ai le cœur qui flanche, tripote la balance. Si la photo est bonne, qu'on m'amène ce jeune homme, ce fils de rien, ce tout est pire, cette crapule au tout sourire, ce grand gars au cœur tendre, qu'on n'a pas su comprendre. Je sens que je vais le conduire sur le chemin du repentir, pour l'avenir de la France, contre la délinquance. C'est bon, je fais le premier geste, que la justice fasse le reste, surtout qu'il soit fidèle, surtout je vous rappelle, à l'image de son portrait, qu'il se ressemble trait pour trait. C'est mon ultime condition pour lui accorder mon pardon, qu'on m'amène ce jeune homme. Si la photo est bonne, si la photo est bonne, si la photo est bonne.
Merci beaucoup, c'est Isabelle qui a choisi ce morceau et en plus c'est une des chanteuses préférées de Christiane Voller, hein, ici présente, et en plus un hommage au photographe Philippe Bazin. Hein. T'as tout pour plaire Isabelle aujourd'hui, vraiment, on est plus, quelle voix magnifique. Hein.
Bon. Quelle chanson, pleine d'ironie.
Ouais, pleine d'ironie. Isabelle, je te laisse la parole ou je... Hein, voilà,
j'avais été extrêmement marquée dans le livre de Christiane et de Philippe par la notion de vulnérabilité dont j'avais déjà parlé à cette antenne et à laquelle vous faites référence, page 160 et suivante. Et vous dites, voilà, être vulnérable, c'est être exposé à la blessure. Exposé à la blessure physique, à la blessure mentale. Et c'était pour vous, finalement, dans votre philosophie de terrain, vos photographies, Philippe, ce que vous éprouviez dans les rencontres avec ces jeunes, au fond. C'est-à-dire, vous éprouviez dans ces rencontres la vulnérabilité et les effets de cette vulnérabilité. Et là, j'aimerais citer à la page 163 du livre l'exemple de Jonathan, le témoignage de Jonathan qui m'a beaucoup touchée. Alors voilà ce jeune de 21 ans, originaire de la République démocratique du Congo, où a eu lieu une marche de protestation, dites-vous, Christiane, le 20 décembre 2016, nous donne une idée des massacres consécutifs à cette marche pacifique. Il témoigne « Moi, mon père a été assassiné par Kabila, il a été incendié, cette haine et cette colère ont, nous a mis en prison et j'y ai passé 5 mois, 3 jours. J'en suis sorti par miracle. » Par évasion. Moi et mes frères, on s'est sauvés. 8 jours après notre évasion, ma mère a été convoquée. C'était la 3e convocation, avec mandat d'amener. Et ils ont tué notre maman. Je suis maintenant à la fois un père et une mère pour mes frères. Le président est en train de faire fuir les gens et de tuer. En 16 ans, il a fait des milliers de morts, mais il reste président. Où est la communauté internationale? Où est l'Union européenne? Et la Cour pénale internationale? Et là, dans votre livre, et ma question vient, vous évoquez cette logique de l'absurde et cette cacophonie juridique dont on parlait avant la chanson. Et vous mettez en lumière cette impasse. L'impasse qui est finalement que l'assignation à la vulnérabilité qui vaut pour une personne individuelle, voilà, quand on la transplante à un groupe, finalement, devient une zone de non-droit, une contradiction, et ça devient, dites-vous, humiliant. Alors j'aimerais que vous reveniez là-dessus, sur cette humiliation que les personnes subissent, dès lors que, finalement, on a affaire, et je vous cite, à une traite globalisée, à une internationale de l'exploitation et à un sabordage du droit.
Oui, tout à fait. Alors cette question de la vulnérabilité, elle est justement extrêmement ambivalente. Parce que tu fais très bien de citer effectivement ce passage. En fait, cette rencontre, c'est une rencontre qui a eu lieu dans le camp de Moria. Et donc, qui est un camp complètement atroce, qui depuis d'ailleurs a été incendié, et qui est connu pour que s'y soient produits des suicides d'enfants à la suite justement de tout ce qui s'y tramait. Un camp dans lequel les gens ne sont pas nourris, on leur distribue de la nourriture avariée. Quelqu'un a dénoncé très bien cela, c'est Jean Ziegler, lorsqu'il a écrit Lesbos, la honte de l'Europe, où il montre effectivement comment ce camp est organisé, mais vraiment en vue de la déchéance, et tu as employé le mot très juste, en vue de l'humiliation. C'est-à-dire et souvent l'encampement est destiné à ça. C'est-à-dire l'encampement est destiné précisément à priver les gens de leur puissance d'agir, à faire qu'ils ne soient plus que des réfugiés, donc plus que des vulnérables et non pas des gens en capacité de produire des actes et en capacité de revendiquer, ni même en capacité de travailler. Donc dans ce camp, lors de cet entretien dont tu parles, en fait, il y avait plusieurs réfugiés de plusieurs pays africains. Il y avait des réfugiés de RDC, il y avait des réfugiés du Cameroun, il y avait des réfugiés de Côte d'Ivoire, et tous de pays où ils avaient été effectivement en butte à la violence politique, et tu cites cette marche effectivement contre Kabila qui a donné lieu à des meurtres absolument terrifiants, mais ça se produisait aussi au moment où il y avait des marches en France également, et peu après, les gilets jaunes, les protestations qui se sont retrouvées mutilées, etc. C'est-à-dire il y avait vraiment quelque chose d'une configuration commune entre les deux. Ce que nous voyons à ce moment-là, c'est que ces personnes étaient conduites à quitter leur pays à cause de la violence politique qui s'y déroulait, mais qu'ils n'étaient pas reconnus ici comme des gens qui, souvent, étaient des défenseurs des droits. Quand on participe à une marche pour défendre les droits, on est un défenseur des droits. Et quand on est trucidé ou exterminé pour ça, ça veut dire effectivement que finalement on subit la violence réactive à son propre désir, à sa propre volonté de protestation. Donc ils arrivaient ayant affronté tout cela, ils arrivaient ayant affronté la mer, ayant affronté les dangers de la mer, et ils disaient « nous venons en France ben, pour aider aussi finalement à tout ce qui peut être fait dans ce pays sur lequel nous souhaitons, en Grèce, mais c'est pareil en France, c'est pour ça d'où mon lapsus, parce que je pensais effectivement à ce que j'ai entendu aussi au camp de Calais, mais nous arrivons pour, en Grèce ou en Europe, apporter aussi notre puissance d'agir, notre savoir-faire, nos compétences, notre intelligence, etc. Or, on ne nous accueille qu'à la condition que nous soyons déclarés vulnérables. C'est-à-dire, on nous accueille au nom de ce qui nous diminue, au nom du fait que nous sommes simplement exposés, et pas au nom du fait de tout le potentiel qui est en nous. Et ça, c'est une humiliation. Et il dit, quand on a vécu tout ce qu'on a vécu, quand on a traversé des épisodes, finalement, que beaucoup d'entre vous n'auraient pas supportés, se retrouver assigné à être juste une victime, pour nous, c'est extrêmement humiliant. Et en particulier, il disait, mais en Afrique, être une victime, c'est être un minable. Et nous ne voulons pas être ça. Nous voulons être des gens reconnus dans leur capacité d'agir et reconnus dans tout leur potentiel. Donc voilà, je pense qu'il faut être aussi très attentif à ça, c'est-à-dire à la perversion de ce rapport à la vulnérabilité, qui est vraiment une perversion très présente à la fois dans les politiques entre guillemets d'accueil, qui n'en sont pas, mais aussi dans les politiques humanitaires, qui ont tendance finalement à réduire les sujets à l'impuissance sociale et politique, pour pouvoir les traiter comme des assistés. Et l'aide et l'assistanat, c'est justement ce qui, dans tout le vocabulaire des réfugiés auxquels nous avons affaire, était quelque chose qu'ils percevaient comme une humiliation. Et je crois qu'il faut vraiment être très conscient de ça, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'aider, il ne s'agit pas d'assister. Et quand on a été dans le camp de Picpas, qui est l'inverse du camp de Moria, qui n'est pas un lieu d'encampement, mais qui est un lieu où les réfugiés travaillent solidairement avec ceux qui viennent effectivement par solidarité, autrement dit un lieu de co-gestion du camp, mais on a vu la différence majeure. Voilà. Et là, voilà, je crois que là, il y a vraiment quelque chose qui s'articule autour de cette question de la puissance d'agir.
Oui, Picpas, ce pourquoi le camp a été fermé par le gouvernement grec récemment, d'ailleurs à l'automne dernier. Parce que ça marchait trop bien, sans police, sans barrière, sans interdit. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est une situation complètement incroyable. Et moi je voudrais prolonger ce que dit Christiane à partir du premier des portraits d'entretien qui apparaît dans le cahier, qui est une femme médecin interniste de l'hôpital de Thessalonique et qui a créé le centre de santé solidaire autogéré et gratuit de Thessalonique et qui nous disait cette chose très simple, évidemment, on n'est pas là juste pour aider les gens. On ne peut pas soigner les gens, quand on avait des gens qui avaient besoin d'être opérés, on pouvait être extrêmement offensif pour obtenir des résultats. Et c'était l'objectif, et notamment, elle nous racontait qu'il n'hésitait pas à débarquer à une centaine de volontaires de ce centre de santé dans des services de chirurgie des hôpitaux pour obliger à ce qu'on opère gratuitement les gens. Et il faisait du sit-in, des fois, pendant plusieurs jours, jusqu'à temps que l'administration et le corps médical cèdent. Donc, c'est ça toute la différence entre, je dirais, l'humanitaire, la bienveillance, et puis ce qu'on appelle la solidarité, et les gens qui sont volontaires sur le terrain pour faire ça, qui voilà ne conçoivent pas du tout leur action en termes de d'action charitable, ce qui est absolument détestable pour les migrants et les gens qui ont besoin d'être aidés.
Tout à fait. Là, je voulais juste citer pour nos auditeurs ce que tu disais, Isabelle, et pour compléter ce que Christiane et Philippe étaient en train de dire, je lis, donc on est à la page, dans les pages que tu citais, hein, 162, et donc c'est dans « Questionner le geste humanitaire » qui est vraiment un chapitre très fort. Un espace de protection sous condition d'assistanat, l'éclat de rire fiché dans la violence. Je lis « Février 2018, on circule autour du camp de réfugiés de Moria, près de Mytilène, sur la côte est de l'île de Lesbos, sur le grill sommaire érigé au-dessus du sol en terre battue, un reste d'aile de poulet racornie, fini de griller. Les deux hommes auxquels on s'adresse, accroupis devant, nous font signe d'entrer sous le long chapiteau de la tente. Ils parlent français, ils viennent du Cameroun. Un espace sous la bâche est aménagé avec des palettes sur lesquelles on s'assied. Et progressivement, un, puis deux, puis trois se joignent à nous. Ceux qui passent dans l'allée jettent un œil, lancent un mot, s'arrêtent. Ils sont maintenant plus de 12 à côté au hasard, et ils nous demandent ce que nous faisons là. On voudrait entendre ce que les exilés ont à dire des conditions qui leur sont faites. Et là, c'est une question qui fuse, suivie d'un éclat de rire. Pourquoi les Européens appellent les gens vulnérables? Ils veulent des malades ou quoi? Et là, il y a toutes ces pages magnifiques. Je cite, vous traversez, là, c'est un migrant qui parle, vous traversez quelque chose comme la mer, vous prenez tous les risques et on vous dit à l'arrivée que pour avoir des droits, il faut être vulnérable. Tu es dans la mer, au milieu de nulle part, dans une espèce de radeau pompé, c'est traumatisant. Et ici, c'est encore pire. Dans notre pays, personne n'envisagerait d'entrer dans la mer. Je cite encore une dernière, parce que c'est très fort, parce que là, voilà la résistance de ces migrants contre cet humanitarisme qui met en place une injonction à la vulnérabilité pour être aidé. Alors que eux, c'est très bien, c'est ce que vous disiez l'un et l'autre à l'instant, c'est que eux sont très forts. Ce qu'ils veulent, c'est agir leur puissance, comme dirait l'autre. Bon, je cite une dernière parole. En Europe, on dit qu'on veut des travailleurs, mais on nous oblige à être malades. Ou peut-être il faut être fou et aller voir un psychiatre. Ils veulent des vulnérables, mais on n'est pas des moribonds, on veut travailler. Ça, j'ai trouvé que c'était des paroles d'une force allant à l'encontre de cet humanitarisme. Voilà. Bélan, absolument, la
oui,
belle âme.
Oui, et je pense que c'est très pervers, vous l'avez très bien dit hein, dans votre livre, et cette stratégie perverse que vous dénoncez à travers les politiques européennes, hein, la page 177 notamment, vous y référez à travers le livre de Michel Agier, hein, « Gérer les indésirables, des camps de réfugiés au gouvernement humanitaire », que vous mettez en lien avec le savant et le politique de Max Weber, avec ce rapport très important à l'éthique. Et d'ailleurs, hein, quand Weber conclut « Je voudrais bien voir dans 10 ans ce que seront devenus ceux d'entre vous qui ont présentement le sentiment d'être de véritables politiciens par conviction et qui prennent part à la griserie de l'actuelle révolution, je voudrais voir alors ce qu'ils seront intérieurement devenus. » Et je pense que dans ce devenir humain, c'est pas justement un humanitarisme, c'est pas une forme de discours qui se retire derrière des beaux mots, c'est une action qui part d'une indignation devant le comportement que les hommes peuvent avoir les uns avec les autres, et dans le rapprochement des uns vers les autres. Je pense que ce qui est super important et que vous mettez tellement en avant dans votre livre, c'est on s'approche de quelqu'un, pas pour prendre du pouvoir sur lui par une quelconque position, mais pour lui redonner vie, en fait, par juste une présence. Une présence qui accompagne, une présence qui ne domine pas. Et moi, je trouve que dans ce livre-là, une ligne
très forte philosophiquement parlant, c'est le renversement des positions dominatrices de l'homme. Position dominatrice sur autrui, position dominatrice sur la nature aussi. Cette espèce de pillage des ressources naturelles, cette espèce de massacre des hommes au fond, qui, ça va de pair. Ça va de pair. Et voilà.
C'est la question du nous, ouais. En fait, et ouais, voilà. Il faudrait peut-être faire ressurgir cette question du nous qui apparaît dès les premières pages de l'ouvrage. En quoi, voilà, il nous reste malheureusement quelques minutes, mais
on va laisser la parole.
En quoi la photographie de Philippe Bazin, qui est une photographie documentaire, voilà, j'invite vraiment les auditeurs à aller regarder ces photos qui sont à l'inverse de ces photos qui cherchent à vendre quoi que ce soit, mais qui sont dans le réel, avec le réel. En quoi la photographie documentaire de Philippe Bazin et la philosophie de terrain de Christiane Voller, à travers cet ouvrage, Un archipel des solidarités, fait ressurgir un nous à partir de cette question des migrations et de ce qu'il aurait fait en Europe.
Très vite pour la photographie, puis oui. Je te laisse la parole. J'ai appelé ça une photographie documentaire critique parce qu'elle a l'ambition de penser que la photographie est pensive, elle peut donner à penser, et donc moi j'essaye de la faire de telle manière que les spectateurs puissent exercer leur puissance critique à l'aide des images et à partir des images. Voilà, et je crois que le « nous », il est là. Oui. C'est-à-dire, on est tous des êtres de pensée, on peut tous exercer notre critique et on n'est pas réduit à être en dessous de ça.
Oui, là, la dimension polémique de tes photos et ta posture de photographe, hein, que la photographie vienne combattre une espèce d'imagerie ambiante issue des médias, issue de la télévision.
Complètement. Qui est une propagande.
Et qui est une propagande.
Complètement.
Voilà.
Complètement. Et nous indigne devant ce qui se passe, quoi. Je pense à la photo, par exemple, des charges des gilets de sauvetage des exilés. À l'Est de Molivos en février 2018. Quoi. La photographie vient nous réveiller au bon sens du terme, pas nous fasciner. Hein. C'est pas de la photo de propagande, justement. Ça ne méduse pas la pensée, ça l'éveille. C'est autre chose.
Ça cherche à poser question.
Exactement.
Y compris dans la façon dont c'est fait, dans la forme esthétique aussi. Mais c'est la même chose pour le travail de Christiane. Il faut quand même dire que c'est un livre, on a affaire à un texte qui est construit littérairement et formellement d'une manière tout à fait singulière, parce que ça entrelace différents niveaux de discours, entre la narration des lieux et des gens qu'on rencontre,
les entretiens,
ce que les gens ont à dire et qui sont pour nous des experts dans le domaine, c'est pas nous qui nous y connaissons, et puis son travail d'analyse philosophique à partir de ce que les gens disent, et je trouve que cette trilogie qui s'entrelace sans cesse dans le livre en fait quand même un texte absolument remarquable et singulier.
Ah oui, vraiment.
Un texte en archipel.
Ouais.
Voilà.
Christiane, une phrase sur cette question du nous ou sur tout ce que tu veux. Voilà.
Sur cette question du nous, deux choses très brièvement.
Oui.
D'abord, effectivement, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que le nous signifie non pas un nous national, mais tout le contraire. Ouais. Un nous qui, au contraire, fait voler en éclats le nous national, c'est-à-dire le nous du rapport aux dirigeants. Ça me paraît très important, d'une part. Et puis, d'autre part, le fait que cette question que tu évoquais, effectivement, Isabelle, du rapport de domination, elle est double. C'est à la fois le rapport de domination politique, effectivement, qui s'établit entre des gouvernementalités globales extrêmement violentes et des populations qu'on cherche à réduire au silence, sans y parvenir, heureusement. Et puis, d'autre part, il y a aussi une autre position de domination qui pourrait être la position de l'intellectuel face aux gens qu'il va interroger. Et c'est là où se pose ce que j'appelle une politique de l'entretien par rapport à la philosophie de terrain. C'est-à-dire, une philosophie de terrain, ça ne veut pas dire une philosophie qui considère les personnes auxquelles elle s'adresse comme un objet de terrain, comme
tout
un objet de sa pensée. Ça veut dire qu'elle considère les gens auxquels elle s'adresse comme des co-auteurs d'une pensée. Et la possibilité, effectivement, que le fait même de l'entretien, suscite la faculté de penser. On en dit beaucoup plus dans un entretien que ce qu'on croyait soi-même savoir ou comprendre. Mmh. Et à partir de là, c'est cette pensée de l'autre, finalement, qui va entrer en résonance avec un discours philosophique et lui permettre de se nourrir.
Eh bien, merci. Merci beaucoup. On était vraiment ravis. Nous avons passé presque une heure avec Christine.